Je suis dans le chapitre 5 de Marc. Jésus arrive à la maison du chef de la synagogue où sa petite fille vient de mourir. Je continue le texte. Jésus ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Versets 37 à 39. Ces trois disciples seront les seuls témoins du groupe des douze de ce qui va suivre. Ce seront également eux qui assisteront à la transfiguration de Jésus un peu plus tard. À la maison, le rituel compliqué du deuil avait déjà commencé. Les pleureuses professionnelles étaient à pied d'œuvre et s'en donnaient à cœur joie, si je peux me permettre cet abus de langage. Je continue. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Taliha kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Versets 40 à 41. Jésus expulse tous les incrédules, puis il lui parle en araméen, une langue sémitique apparentée à l'hébreu et parlée par tous les juifs. Les habitants de la Galilée étaient tous bilingues. Ils connaissaient également le grec qui prédominait dans le monde gréco-romain. Jésus se montre très tendre envers cette petite fille. Il lui a dit quelque chose comme « Petit agneau, réveille-toi ». En même temps, il donnait un ordre au séjour des morts de relâcher sa proie. Comme un mort, ça n'entend pas, ce n'est pas vraiment à la personne que Jésus s'adresse, mais à l'au-delà. Et ce miracle est en réalité un acte de création de sa part. Ces paroles ne sont en rien une formule magique, mais confirment une fois de plus l'autorité absolue de Jésus en tant que Dieu Tout-Puissant. Dans les Évangiles, il ressuscita trois personnes et toujours en leur parlant. À l'occasion de ce miracle, les Écritures lèvent le voile sur un mystère et nous donnent un renseignement concernant les enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de raison, à partir duquel ils sont tenus responsables devant Dieu pour leurs actions. Jusque-là, il y a tout lieu de penser qu'ils sont considérés comme innocents. Je continue le texte. Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à cette jeune fille. Versets 42 à 43. À nouveau, l'auteur utilise l'adverbe d'action « aussitôt », qui projette l'image que la jeune fille a littéralement sauté du lit. Les disciples sont hors de leur sens, dans un état de choc, dit le texte originel. Jésus fit alors deux recommandations. La première est une sévère injonction au silence. Il ne voulait pas que ce miracle attire les gens uniquement pour se faire guérir, ni à ce que la liesse populaire ne cherche à le propulser au pouvoir pour des motifs politiques. Il désirait révéler son identité de Messie progressivement. En second lieu, il demanda à ce que l'on donne à manger à l'enfant, montrant ainsi que son rétablissement était complet. Ne dit-on pas, quand l'appétit va, tout va. La petite fille était ainsi passée en un rien de temps, de l'agonie à la mort, à la pleine santé. Revenue à la vie naturelle, elle était toujours sujette à l'usure du temps et à la maladie et avait donc besoin de manger, comme tout un chacun. La résurrection de la fille de Jaïrus est le troisième épisode qui montre de façon spectaculaire l'autorité de Jésus sur, premièrement, les éléments naturels lorsqu'il calma la tempête, deuxièmement, sur les esprits mauvais dans la ville de Gérasa et troisièmement, sur la maladie et la mort. Le premier miracle conduisit les disciples à poser une question essentielle. Qui est cet homme ? Le suivant suscita la crainte et l'admiration, tandis que ce dernier mêle incrédulité et finalement stupéfaction. Par ses témoignages de sa puissance, Jésus révèle petit à petit son identité. Cependant, il ne le fait pas pour soigner sa réputation, mais pour susciter la foi en lui. Il veut que les gens reconnaissent d'eux-mêmes qu'il est bien davantage qu'un faiseur de miracles, mais le Messie qui devait venir. Nous voici maintenant au chapitre 6 de Marc. Jésus est toujours aussi occupé qu'auparavant, mais au tout début, il y a cependant une accalmie dans l'intensité de son ministère. Je commence à lire. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Verset 1. Jésus se rend dans la ville où il grandit, à Nazareth, à 30 km de Capernaüm. C'était au moins son second retour au pays. La première fois, qui est racontée dans l'évangile de Luc, c'était un voyage privé. Il y était allé seul, n'avait fait aucun prodige et dut quitter les lieux précipitamment après qu'on essaya de l'assassiner. Cette fois-ci, il venait en tant que rabbin, qu'enseignant, entouré de ses élèves. Il s'agissait donc d'une mission publique. Il préparait ainsi ses disciples en vue de leur propre ministère en leur donnant l'exemple. Je continue le texte. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ? » disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici, parmi nous ? Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. » Versets 2 et 3. C'était la coutume de Jésus de se rendre à la synagogue et d'expliquer les Écritures. Tous les Juifs étaient religieux à cette époque et fréquentaient donc ce lieu de culte. Les gens du coin le connaissaient comme le fils du charpentier et non en tant que rabbin érudit. Ils étaient ébahis par son enseignement. Qu'il se pose des questions sur sa véritable identité, c'est bien, mais leur conclusion en dit long sur leur préjudice à son égard. Malgré ses prodiges, les habitants ne voulaient voir en lui qu'un simple ouvrier comme eux-mêmes. Toute sa famille, ses frères et sœurs y compris, étaient des gens ordinaires, alors ils se montrèrent particulièrement méprisants en disant « Mais pour qui se prend-il donc, celui-là ? N'est-il pas le fils de Marie ?» En effet, selon l'usage juif, on ne décrivait jamais un homme comme le fils de sa mère, même si celle-ci était veuve, sauf pour l'insulter. C'était un affront bien calculé car il suggérait également qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, voire de louche, à propos de sa naissance. Éventuellement, deux de ses frères, Jacques et Jude, deviendront des disciples et chacun auteur d'une lettre du Nouveau Testament. Je continue le texte. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. » Versets 4 et 5. Jésus s'identifie aux prophètes de l'Ancien Testament dont les paroles étaient la plupart du temps rejetées et qui étaient méprisées en particulier par ceux qui les connaissaient le mieux. On a tendance à considérer les gens ordinaires comme des experts s'ils viennent de loin. Par contre, si on connaît la personne, on la disqualifie. C'est assez curieux. Même Jésus fut étonné du refus par ses familiers de croire que sa sagesse et sa puissance venaient de Dieu. Autant qu'on sache, il ne retourna jamais plus à Nazareth. Il continua cependant son ministère itinérant dans les environs. Le but de Jésus étant d'accomplir des miracles lorsque la foi était présente, il n'y avait dans son village d'origine que quelques-uns qui eurent suffisamment confiance en lui pour être guéris. Cette règle n'était pourtant aucunement rigide et Jésus a fait bon nombre de prodiges indépendamment d'un acte de foi de quiconque. Par contre, lorsqu'on lui demandait de faire un miracle par incrédulité ou par défi, alors là, il refusait systématiquement. Il n'était pas venu pour amuser la galerie. Les habitants de Nazareth symbolisent l'aveuglement d'Israël. Leur refus de croire en Jésus illustra ce que les disciples allaient bientôt expérimenter eux-mêmes. Tout comme l'indifférence d'aujourd'hui, voire le sourire en coin moqueur de nos contemporains à l'égard du Christ. Cela me fait penser à un verset du Nouveau Testament qui souligne l'importance de croire en Dieu afin de le voir agir. Je le cite. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Fin de citation. L'incrédulité est donc l'obstacle majeur à l'action de Dieu. Maintenant va commencer la troisième section majeure de l'évangile de Marc. Au cours de cette étape de son ministère, Jésus accorde une plus grande attention à ses disciples. Il va leur révéler par ses paroles, ses actes, qui il est vraiment. Je continue le texte. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission deux par deux en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Versets 6 et 7. Comme déjà précédemment, cette section de l'évangile de Marc a une structure en sandwich. Le récit de la mission des 12 est coupé en deux par celui de la mort de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ et le premier martyr du Nouveau Testament. Mais la mort n'a jamais arrêté le message de Dieu. Après le départ de Jésus de cette terre, les apôtres reprirent le flambeau et, après eux, d'autres disciples et ainsi de suite. De manière à étendre son ministère au cours de cette tournée de la Galilée, Jésus envoya les 12 deux à deux. Une pratique commune à cette époque pour des raisons pratiques. Les apôtres étaient ses représentants autorisés. Je continue. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit « Ne prenez ni provisions, ni sacs, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et emportez pas de tunique de rechange. » Versets 8 et 9. Les instructions inhabituelles de Jésus ne se rapportent qu'à cette mission particulière. Ils devaient prendre leur bâton de marche et chausser des sandales ordinaires. Mais l'urgence de leur mission exigeait qu'ils aient peu de bagages. Ils devaient apprendre à dépendre uniquement et totalement de Dieu qui leur donnerait nourriture et gîte, grâce à l'hospitalité des familles juives. Ils devaient voyager super light, emmenant peu de bagages, sans pain, ni sac à provisions, ni argent, ni vêtements additionnels. Je continue. Là où on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Versets 10 et 11. Les disciples ne devaient pas aller de maison en maison, mais conserver la même base d'opération durant tout leur séjour dans la ville. Le Christ ne changea jamais de quartier général. Il opéra toujours à partir de la maison de Pierre dans Capernaüm. Les disciples devaient également s'attendre au rejet. Secouer la poussière de ses pieds était le geste que faisaient les Juifs pieux lorsqu'ils quittaient un territoire païen pour montrer qu'ils s'en dissociaient. Ce comportement rituel dans une ville juive était une insulte cuisante. Cela provoquait sans doute de sérieuses réflexions et peut-être même un retour sur soi de la part de quelques-uns. Je continue le texte. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Il chassait aussi beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les oignant d'huile. Versets 12 et 13. Les disciples prêchent essentiellement la repentance appuyée par des miracles qui authentifient leur message. Ils sont toujours inscrits à l'école du Christ et sont en train d'apprendre sur le tas que la puissance de Jésus s'étendait au-delà de sa présence personnelle. L'onction d'huile comme acte symbolique est une façon de communiquer que les disciples agissaient par l'autorité de quelqu'un d'autre, celle du Christ, et non par la leur. Jésus devient très connu dans la région. Non seulement le peuple, mais aussi Hérode, sur son trône, en entend parler et lui donne une explication superstitieuse. Je continue le texte. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie. » D'autres encore « C'est un prophète comme il y en avait autrefois. » De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait « C'est celui que j'ai fait décapiter. C'est Jean, et il est ressuscité. » Versets 14 à 16. Ce pantin ridicule que Jésus appellera « renard » est Hérode Antipas, fils de Hérode le Grand, assassin de renom. Il était gouverneur de la Galilée et d'une autre province sous l'égide de Rome. Ce passage présente trois opinions qui essaient de rendre compte des miracles de Jésus. Élie était un fameux prophète de l'Ancien Testament qui fit plusieurs prodiges qui nous sont rapportés par les Écritures. Hérode, quant à lui, troublé par une conscience coupable, est convaincu que Jésus est Jean-Baptiste qui l'a fait exécuter, et qui est revenu à la vie doté de pouvoirs miraculeux. Maintenant, nous entrons dans le sandwich, car Marc interrompt pour un temps la mission des douze pour faire un retour en arrière afin d'expliquer ce qu'il vient de dire concernant Hérode. Je continue le texte. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Versets 17 à 18. Jean-Baptiste était sans peur et sans reproche. Il n'avait pas froid aux yeux et courageusement se permit de dénoncer la déchéance morale du gouverneur de sa province. « Nous, on est blasés. Nos dirigeants peuvent bien prendre autant de femmes qu'ils veulent. Tout le monde s'en moque. » Ça fait les choux gras de certains journaux, mais c'est tout. Hérodiade, quant à elle, était une femme ambitieuse et qui ne tolérait aucun obstacle. Or, Jean-Baptiste en était un de taille parce que son nouveau mari le respectait, ayant de lui une peur superstitieuse. Je continue. Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe. Et pourtant, il aimait l'entendre. Versets 19 à 20. Hérode était fasciné par la prédication de Jean-Baptiste et le protégeait de sa femme furieuse qui voulait lui faire la peau. Je continue. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable. Lors de l'anniversaire d'Hérode, celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, « je te le donnerai même si c'est la moitié de mon royaume. » Versets 21 à 23. C'est une sombre histoire de vices en tout genre. Hérode, en bon mégalomaniaque, organisa une fête somptueuse en son propre honneur. Hérodiade, qui connaissait bien son mari, envoya sa fille faire une danse du ventre provocante qui séduisit l'assemblée. Hérode, le grand libertin et homme sensuel, tire la langue et mord à l'hameçon. Il ne se retient plus et fait une offre imprudente et ridicule, puisqu'étant sous la botte de Rome, ce n'était pas à lui de décider qui allait administrer la moitié de son domaine. Avec arrogance, il promet sous serment n'importe quoi à cette jeune femme qui l'a allumée. Je continue. Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. Que vais-je lui demander ? « La tête de Jean-Baptiste, lui répond celle-ci. » Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Versets 24 à 25. Avec une promptitude préméditée, Hérodiade, qui avait bien calculé son coup, demande la tête de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on appelle un meurtre de sang-froid avec préméditation. La jeune fille retourne voir les convives avec sa macabre demande. Elle la voulait exécuter sur le champ, avant qu'Hérode ne refroidisse et trouve moyen de se sortir de ce mauvais pas. Je continue. Le roi en fut consterné, mais, à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas le lui refuser. Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. Versets 26 à 29. Comme le courage et l'humilité étaient des vertus inconnues d'Hérode le Pantin, pour sauver la face, il fait froidement assassiner Jean-Baptiste. Celui-ci est réduit au silence, mais son message demeure. Je continue. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Versets 30 à 32. Nous sortons du sandwich littéraire pour continuer le récit des 12 qui reviennent pleins d'enthousiasme à cause de ce qu'ils ont vécu, ce que précise un texte parallèle. C'est sûr qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Néanmoins, les exigences qui pesaient sur eux tous étaient considérables et le temps pour se reposer manquait. D'où cette démarche du Christ de se retirer dans un coin perdu pour souffler. Je continue. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à enseigner longuement. Versets 33 à 34. Le repos fut de courte durée, tout juste le temps de la traversée en barque. Mais Jésus est plein de compassion pour ces pauvres gens étriqués, sans guide et sans protection. Cette foule reçut un enseignement approfondi concernant le royaume de Dieu, ainsi qu'une réponse à tous leurs besoins physiques. Le passage parallèle dans Matthieu mentionne de nombreuses guérisons. Jésus se montrait un vrai berger. Je continue le texte. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous le leur donnions à manger ?» Jésus reprit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire « Il y en a 5 et 2 poissons. » Versets 35 à 38. Comme il se faisait tard et qu'ils étaient dans un lieu désert, les disciples s'inquiètent. Jésus les met alors au pied du mur, car ils doivent apprendre à s'occuper des autres et à compter sur Dieu quand ils sont coincés. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.